Alors, on va ouvrir ensemble les Écritures, c'est Noël, et on va lire ensemble un texte de Noël. On est sur notre série « En chemin vers Noël ». Les textes que nous allons lire se trouvent dans le deuxième chapitre de Matthieu, un texte bien connu qui est celui de la naissance de Jésus et dans les années qui ont suivi de la visite des mages. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Matthieu 2, 1, 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est donc le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il envoya à Bethléem en disant « Il les envoya pardon, à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et ils tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Je continue un peu plus loin pour vous donner quelques éléments de contexte. Verset 13. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre. » Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Quand Hérode se fit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il fit supprimer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie, une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée, car ils ne sont plus. Je vais prier. Seigneur, on connaît bien ce texte, on sait que ça parle d'une séquence que l'on répète souvent, que même des personnes qui ne sont pas habituées à fréquenter l'Église ont probablement entendu, cette histoire des mages, cette histoire de l'étoile qui s'arrête au-dessus de la maison. Mais on veut se souvenir aussi que c'est une histoire tragique avec la mort de ses petits-enfants, avec un roi qui manifestement fait preuve d'une tyrannie hors norme. Et on veut te prier, Seigneur, pour qu'on puisse se souvenir que en ce moment où on ouvre ce texte, nous puissions non seulement regarder la grande bénédiction qu'est l'introduction du Fils de Dieu dans le monde, mais aussi regarder la réalité d'en face quant au sort et aux tendances de l'humanité déchue. Père, on veut te prier pour qu'on puisse être inspiré par ce texte, façonné par lui, que tu nous diriges, que tu nous montres la voie et que tu nous encourages, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je le disais dans ma prière, on insiste souvent sur la belle histoire de Noël, le petit enfant dans la crèche, les mages qui viennent lui offrir des présents avec le bœuf et l'âne à côté. Et puis, vous avez les parents, Marie et Joseph, qui sont complètement souriants. À vrai dire, cette image, elle est un peu truffée d'erreurs. Je veux dire, Jésus et Marie et Joseph, son père, ne sont pas dans l'étable. Ils sont actuellement dans une maison. Et au moment où les mages visitent ce petit enfant, eh bien, il a probablement entre 1 et 2 ans. Vous voyez ce que fait Hérode lorsqu'il s'est enquis de la durée de la visibilité de cette étoile. Eh bien, il sait qu'il doit se débarrasser de tous les petits-enfants qui ont moins de 2 ans. C'est terrible, hein, les enfants, si vous écoutez ça, vous vous rendez compte que ce sont des tout petits enfants, comme Jules, comme d'autres, qui se sont fait mettre à mort à cause de la folie d'un roi. Mais on va y revenir. Cette image, donc, je le disais, elle est truffée d'erreurs. Et puis, même si la visite des mages est positive, eh bien, en soi, le contexte dans lequel elle se produit, eh bien, c'est assez dramatique. C'est la mort d'enfants, c'est un roi sanguinaire, c'est des chefs religieux qui s'en moquent complètement. De sorte que Noël, ce n'est pas simplement une occasion de nous réjouir de la naissance de Jésus, c'est aussi une opportunité de nous souvenir que quelque chose ne tourne pas rond au sein de cette humanité. Et ce texte, je crois, nous offre trois grandes leçons. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de vouloir exposer totalement ce texte, mais de regarder simplement trois grandes leçons que ce texte peut nous offrir. La première grande leçon, et j'aimerais qu'on la médite tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation actuellement, la première grande leçon, c'est qu'il est possible d'être très près de Dieu et de passer à côté de lui sans le rencontrer. Il est possible d'être très près de Dieu et de passer à côté de lui sans le rencontrer. Regardez simplement la figure d'Hérode, dramatique figure dans ce texte, je viens de le dire, il est associé à la mort de ses petits-enfants, c'est ce qu'on appelle le massacre des innocents. Cet Hérode était le fils d'une personne qui s'appelait Antipater, c'est presque comme antipathique, vous vous rendez compte d'avoir un papa qui s'appelle comme ça. Cet Antipater était une sorte d'aventurier des temps anciens, un Iduméen. Si vous êtes familier de la lecture de la Bible ou de l'Ancien Testament, l'Idumée, c'était le nom de la province romaine qui était auparavant sous la domination d'un peuple qui s'appelait Édom. Donc, Hérode était en quelque sorte un Édomite, mais Hérode avait accepté la religion juive, il s'était converti, c'était un prosélyte. Sa mère, elle était arabe, on le sait par un auteur qui s'appelle Flavius Joseph, et du point de vue romain, bah en fait, Hérode, il était juif. Vous savez, les Romains, ils s'embêtaient pas avec ces catégories-là, mais pour les Juifs, jamais ils n'ont accepté Hérode comme un des leurs. Ils le considéraient même comme une sorte de demi-juif, quelqu'un qui n'avait pas droit de cité en Israël. Et si Hérode était roi, eh bien, sa royauté, il l'a obtenue avec l'aide des Romains, à la suite d'une guerre de succession complètement meurtrière, dans laquelle plusieurs membres de sa famille même ont perdu la vie. À aucun moment, il n'a l'assentiment du peuple en Israël. À aucun moment, son règne ne devient populaire. À aucun moment, il ne sera tranquille. Durant son règne, il devra faire face à de nombreuses révoltes. Bref, un roi qui n'était pas populaire. Et donc cet Hérode, assoiffé de pouvoir, paradoxalement, il est constamment dans la crainte de perdre son pouvoir. Et cette crainte le conduit à des exactions absolument terribles. Par exemple, dans un souci de népotisme, vous savez, le népotisme, c'est cette volonté de placer des proches à des postes clés du pouvoir, de placer des personnes de son entourage à des fonctions représentatives de façon à pouvoir garder le pouvoir. Alors ce qu'il va faire, il va nommer grand prêtre son beau-frère. Donc vous voyez, les postes religieux se distribuaient un peu comme on distribue des cartes, n'est-ce pas ? Son beau-frère qui s'appelait Aristobule III. Mais à un moment donné, Aristobule va devenir trop populaire pour lui. Qu'est-ce que va faire Hérode ? Il va le noyer dans une piscine à Jéricho. Ça vaut pas le coup d'être le beau-frère d'Hérode. Il y a des relations familiales qu'on préférerait ne pas avoir, n'est-ce pas ? Et c'est exactement la même crainte qui anime Hérode lorsque vous avez, comme de par hasard, des mages qui viennent d'Orient, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils arrivent comme ça et ils disent « Où est-ce qu'il est le roi des Juifs qu'on aille l'adorer ?» Et lui, il se dit « Mais attendez, le roi des Juifs, c'est moi ? Comment ça ? C'est moi que vous devez adorer ?» Et ils apprennent qu'un petit enfant est né et que son étoile a paru en Orient. Et immédiatement, dans le contexte dans lequel il était, contexte qu'on a identifié, vous savez, dans les précédentes prédications de cette série, où on a vu que c'était un moment où les attentes messianiques du peuple étaient les plus intenses de l'histoire, probablement, immédiatement, Hérode fait la connexion et se dit « Mince, encore une histoire de roi messie, ça c'est un danger pour mon trône. » Et dans sa tête, vous avez une lumière rouge qui clignote, il se dit « Je vais perdre le pouvoir ou quelqu'un va menacer mon pouvoir, il faut absolument que je fasse quelque chose par rapport à cela. » Et puis en plus, c'est pas tout. C'est pas comme si les mages ils étaient venus rencontrer Hérode et qu'ils lui avaient confié ce secret dans le creux de l'oreille. A priori, les mages, ils ont tourné un peu partout dans Jérusalem, de sorte que la nouvelle était publique. C'est pas seulement Hérode qui est troublé, c'est tout Jérusalem, nous dit le texte, qui est troublé avec lui. Or, vous vous souvenez sans doute ce que nous avons vu précédemment. Nous avons vu que Jésus, de par sa généalogie, il était réellement de descendance royale. Et Hérode n'était rien d'autre qu'un usurpateur sur le trône. Donc ce statut-là fait que Hérode a peur, même s'il ne sait pas encore qui est ce Jésus-là, même s'il ne sait pas d'où il va venir, il s'inquiète. Et ce qui est dramatique, et ce qu'on voit là présentement, c'est que vous avez le leader de cette époque, la personne qui est probablement la plus à même d'être capable d'arriver, de rencontrer Jésus. Vous voyez, quand un dignitaire veut rencontrer quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus facile pour lui. Il a juste à envoyer l'un de ses aides de camp ou qui que ce soit pour aller au contact de cette personne, il va le rencontrer tout de suite. On se presse d'aller voir les dignitaires. Mais Hérode n'a absolument pas cette intention. Alors que le descendant de David est là, alors que celui qu'on a appelé Emmanuel, vous vous souvenez, Immanuel, Dieu avec nous, alors qu'il est à quelques pas de lui, eh bien la soif de pouvoir et la cruauté d'Hérode ne lui donnent qu'une seule envie, le faire mourir. Aucune envie de rencontrer ce Jésus-là. Regardez la fourberie d'Hérode. Il fait appeler en secret les mages, il se fait préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile, il prétend vouloir lui aussi adorer, la seule envie qu'il a, c'est de tuer, il veut faire mourir. Son ventre, son gosier réclame du sang, il veut le pouvoir, il sera prêt à tout pour cela. Cette soif lui coûte la rencontre avec ce petit enfant. Manifestement, tout ce qu'il veut, c'est le prendre dans ses griffes. Donc vous voyez, l'exemple même d'Hérode nous montre qu'on peut être très très près de Jésus et ne pas parvenir à rentrer en relation avec lui. Alors il y a Hérode d'une part, mais c'est pas tout. Et il y a aussi ces grands prêtres et ces scribes du peuple qui sont mentionnés dans notre texte. Si vous regardez bien ce qui se passe, le roi Hérode, il fait immédiatement la connexion entre ce roi des Juifs et ces attentes messianiques dont je viens de parler du peuple qui était vraiment vivace à ce moment-là. Et il décide alors de s'enquérir plus exactement de ce que les textes, les prophètes, la loi racontent au sujet de ce Messie. Ce sont les textes qui sont dans notre Ancien Testament tel que nous l'avons aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous avez une question sur des textes religieux ? Eh bien, vous vous tournez vers les représentants religieux. Et pour les Juifs de l'époque, ces représentants, c'était les grands prêtres, c'est-à-dire ceux qui étaient en quelque sorte les dépositaires du culte, mais il y avait aussi ces scribes. Et ces scribes, c'était des personnes qui étaient des personnes qui copiaient les textes de la loi. Souvent, on parle de scribes du peuple, ici c'était probablement des écrivains publics qui étaient des copistes et qui étaient versés dans les Écritures. Et quand vous aviez une question technique sur le texte, il était normal qu'on se tourne vers ceux qui avaient l'habitude de copier le texte. Bref, c'est l'équivalent de nos théologiens aujourd'hui ou de nos blogueurs préférés, n'est-ce pas, pour ne viser absolument personne. On sait historiquement que Hérode n'avait pas de très bonne relation avec ces grands prêtres et avec ces scribes du peuple. Vous savez, ces grands prêtres, ces scribes et puis quelques-uns des anciens de Jérusalem, ils formaient un espèce de conseil juridique qu'on appelait le Sanhédrin. Si vous êtes un lecteur assidu de la Bible, vous savez que le Sanhédrin, c'est un organe de jugement qui servait à proférer des condamnations selon la loi juive. Mais Hérode, il se méfiait du Sanhédrin, c'est normal, vous vous rendez compte, c'était un contre-pouvoir terrible. Alors cet Hérode, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait limité les pouvoirs du Sanhédrin, par exemple en les empêchant de prononcer des peines de mort. Et ces anciens du peuple, ces laïcs, ces grands prêtres et ces scribes, ils étaient particulièrement irrités contre Hérode et ils avaient envie de lui dire de gérer ses propres affaires. Et vous voyez la tension existant entre les deux. Mais ça n'empêche pas Hérode, dans un contexte comme celui-ci, d'aller questionner ses responsables religieux pour leur demander où devait naître le Christ. Et là, il n'y a pas d'hésitation, pas de tremblement de la part de ces chefs religieux. Ils savent très bien où est-ce qu'il va naître. Où est-ce qu'il va naître ? À Bethléem de Judée. Et ils vont même vous citer la référence exacte sur laquelle ils se basent pour affirmer ça. Ils vous citent Michée, ils disent « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira le dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Dans le contexte, encore une fois, c'est ce dirigeant, ce fils de David, qu'on attend pour régner éternellement. Ils savent où trouver ce Jésus, mais ils n'y vont pas eux-mêmes. Dans le contexte, Le texte ne suggère pas, que les prêtres et les scribes participent au stratagème d'Hérode, ni même d'ailleurs qu'ils sont au courant de ce qui se passe, mais le reste de l'évangile de Matthieu ne fait pas mystère sur leur attitude qu'ils emploient envers Jésus. Ils le rejettent, ils n'acceptent pas sa messianité, ils contestent sa naissance miraculeuse, ils répandent le doute sur ses miracles. Bref, ils ne croient pas en lui, ils sont ce que l'évangile appelle des incrédules, des gens qui refusent de croire au ministère de Jésus. Alors quand on regarde Hérode d'un côté, et quand on regarde ses dignitaires religieux de l'autre, il y a une chose qui ressort comme un fil conducteur, c'est que être non loin de Jésus, être près de Jésus, ne signifie pas que tu as Jésus. Géographiquement, Hérode et les responsables religieux juifs, ils étaient juste à côté de lui, mais on n'en voit aucun se déplacer jusqu'à Bethléem. Pour info, c'était une dizaine de kilomètres. Alors c'est sûr, aujourd'hui on le fait en 20 minutes quand vous êtes en Israël. J'ai regardé sur Google Maps, je sais de quoi je parle, vous voyez. Mais malgré cela, à l'époque, même si ça vous prenait une demi-journée de marche, peut-être un petit peu plus si réellement la route n'était pas très bien faite, vous voyez, même si ça prenait énormément de temps, aller voir ce peut-être futur Messie, c'était quand même quelque chose que n'importe quel religieux juif ou n'importe quelle personne qui professait le judaïsme aurait eu envie de faire. Mais au lieu de ça, ils disent hommage, allez-y vous-même et venez nous dire ce que vous avez vu. Géographiquement d'une part, mais aussi spirituellement, ils étaient les mieux placés pour savoir reconnaître le Messie lors de l'incarnation. La remarque des grands prêtres et des scribes au sujet de Bethléem le prouve. Ils savaient tout ce qu'on avait besoin de savoir sur le Messie. Ils avaient la tête pleine à son sujet, mais ils avaient le cœur vide. Ils savaient beaucoup de choses. Ils étaient incapables de s'approcher de lui. Ils passent complètement à côté de Christ. Ils manquent le moyen d'être éternellement connectés avec lui. Et cela confirme ce que je vous dis, c'est qu'on peut être très près en apparence de Jésus et passer complètement à côté de lui. C'est un avertissement pour nous, même si nous fréquentons l'Église de manière quotidienne. Peut-être vous vous dites, mais moi je suis chrétien. Mais écoutez, être chrétien n'a jamais sauvé. Ce n'est pas parce que vous seriez même dans une église, que vous auriez été baptisé dans l'église depuis que vous étiez tout petit, que ça va vous apporter quoi que ce soit de miraculeux ou de bénédiction spéciale. Ce n'est pas parce que vous seriez né dans un McDonald's que vous seriez un hamburger. À combien plus forte raison être baptisé dans l'église aurait changé quelque chose? Je me rappelle avoir prêché un message d'évangélisation dans une église en Angleterre. Une dame est venue me voir à la fin et m'a dit « J'habite juste à côté de la chapelle ». Mais qu'est-ce que ça va vous apporter, madame? Quelle est la plus-value d'être géographiquement proche si votre cœur est vide et froid envers ce Messie qui ne demande qu'à être accueilli? Envers ce petit enfant qui vient à nous comme ce qu'il y a de plus cute, de plus désirable? Je regardais les photos de mon fils hier, la comparaison entre ses 1 mois et ses 5 mois, il est tellement cute, n'est-ce pas? Et je vois plusieurs dames et des messieurs aussi, il faut le dire, qui sourient dans la salle parce qu'ils savent qu'il est tellement cute, pas vrai? Et c'est comme ça qu'est venu Jésus à nous. Il est venu comme un petit enfant, quelqu'un qu'on a envie de prendre dans les bras. Regardez la réaction de ces chefs religieux et de ces dignitaires. L'un veut le tuer, les autres ont la tête pleine, mais sont complètement indifférents. Oh, mes amis, vous pouvez peut-être fréquenter l'église depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans même. Ça ne présume en rien de la chaleur de votre cœur envers ce Jésus. Êtes-vous prêt à l'accueillir aujourd'hui? Voici la question qui se pose. La deuxième remarque est en fait l'antithèse de ce que je viens de vous dire. Il est tout à fait possible d'être très loin de Dieu, il est tout à fait possible d'être très loin de Jésus et malgré tout d'entrer en relation avec lui. Il est possible d'être très très loin de lui et malgré tout parvenir à établir une connexion avec lui. Et je crois que c'est exactement ce que cette histoire des mages d'Orient nous raconte. Alors ça vaut le coup qu'on s'arrête un instant là-dessus. C'est qui ces mages d'Orient? Parce qu'on n'arrête pas d'en parler de ces mages, on nous sort leurs noms, ils s'appellent Balthazar, Melchior et Gaspard, c'est généralement comme ça qu'on les appelle. Ils offrent des produits précis, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. La tradition est complètement empoulée, développée, mais je suis désolé, le texte ne nous dit pas qu'ils étaient rois, le texte ne nous dit pas qu'ils s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar. Le texte ne nous dit même pas qu'ils étaient trois. Alors ce sont des mages. Qu'est-ce que c'est que des mages? Le terme grec c'est magos et généralement, historiquement, étymologiquement même, ce terme-là, il était associé à la religion persanes, c'est-à-dire les Mèdes, qui se sont fait progressivement envelopper, avaler par les Perses, et cette religion persane, iranienne, pourrait-on parler, hein, cette religion de dualité, si vous vous intéressez à cette région aujourd'hui, eh bien, c'était eux qui avaient donné, je dirais, ce terme à ces mages. D'ailleurs, la version grecque de Daniel utilisait le terme magos, mage, pour désigner ces fameux magiciens qui étaient à la cour de Nebuchadnezzar. Vous vous en souvenez certainement si vous lisez l'Ancien Testament. Mais au 1er siècle après Jésus-Christ, le terme mage, bah, c'était devenu en quelque sorte un terme complètement générique qui se référait aux personnes qui s'intéressaient à l'astrologie, à la magie, bref, aux arts occultes. Et je dis les arts occultes, comprenez bien que je mets des guillemets autour du mot « art », mais c'était des arts occultes, exactement celles contre lesquelles la loi de Moïse mettait un avertissement et s'inscrivait en faux. Laissez-moi vous donner un exemple. Le faux prophète, celui qui est qualifié de faux prophète, qui s'appelle Bar-Jésus dans Acte 8, vous voyez peut-être ce passage-là, eh bien, il est qualifié de magos. C'est ce qui était désigné comme un mage, quelqu'un qui faisait des espèces de miracles par des puissances occultes. Et donc, pour les premiers chrétiens, le terme mage, il était hautement péjoratif. Ça veut dire que Matthieu, qui vous raconte l'introduction du Messie dans le monde, la naissance de Jésus, il dit que les premières personnes d'intérêt qu'il doit mentionner dans son évangile et qui sont arrivées vers Jésus, ce sont des gens qui étaient perçus par les premiers lecteurs comme des personnages particulièrement négatifs, les derniers types de personnes qu'ils auraient pu imaginer voir se prosterner devant ce Messie tant attendu. Alors c'était des mages, et on rajoute que ces mages venaient d'Orient, c'est-à-dire de l'Est. Dans l'Ancien Testament, je vous le disais, hein, les mages font souvent référence aux astrologues babyloniens. Je vous ai mentionné le livre de Daniel, où les mages de la cour du roi sont absolument incapables d'interpréter le rêve de Nebuchadnezzar. Et donc le plus probable, c'est que les mages dont il est question ici étaient peut-être, c'est ce que pensent certains spécialistes évangéliques, dépositaires d'une tradition qui remonterait du temps de Daniel, qu'ils auraient transmis cette tradition un petit peu comme dans une caste particulière et qui se seraient, j'ai pas envie de dire convertis, mais en tout cas qu'ils étaient en train eux aussi d'attendre un Messie et qu'ils se seraient rapprochés de ce Messie-là. Et lorsqu'ils auraient vu l'étoile, ils ont su qu'ils devaient se mettre en route. C'est probablement l'explication qui est la meilleure, mais le texte reste particulièrement évasive là-dessus. La question, c'est comment ils ont fait pour venir de cette région-là, à des milliers de kilomètres de Jérusalem, pour venir jusqu'à cette ville et dire tout simplement « Nous avons vu son étoile en Orient ». Eh bien, voilà ce que dit le texte, ils ont vu une étoile, et on peut se poser la question, mais quelle est cette étoile qu'ils ont suivie depuis quand, au 1er siècle avant Jésus-Christ, on avait des GPS ? Ça paraît complètement surprenant et fou, cette histoire. Alors, les spécialistes, même les spécialistes non chrétiens, prennent cette histoire d'étoile très 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 au sérieux, figurez-vous. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse d'une comète, qui est aujourd'hui encore l'hypothèse qui a la faveur des spécialistes. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune comète qui correspond parfaitement aux dates qu'il faudrait reconstruire pour que ça matche avec les données qu'on a sur Hérode ou les données qu'on a sur Jésus. Il y a une hypothèse très récente là, qui a été avancée par un spécialiste, et si le sujet vous intéresse, Dominique Anger avait fait un excellent article là-dessus. L'hypothèse ferait que ça serait une comète qui serait en fait non répertoriée. C'est possible. Il y a aussi d'autres qui défendent l'idée d'une conjonction d'étoiles, vous savez, comme un alignement de Saturne et Jupiter par exemple. Il y a aussi une hypothèse qui serait celle d'une nova ou d'une supernova avec une explosion stellaire. Vous savez, c'est une explosion d'une étoile qui se serait vue et qui serait partie dans plusieurs directions. Et dites-vous que c'est vraiment impressionnant, je ne savais pas cela, mais vous avez des astronomes qui se spécialisent là-dedans, et même des gens qui ne sont pas chrétiens, même en Chine, vous avez eu des groupes de recherche qui ont essayé de déterminer historiquement quel aurait pu être le phénomène céleste qui aurait pu guider ces mages. Donc vous voyez, il n'y a pas que les chrétiens qui prennent cette histoire au sérieux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Déjà, le terme original grec, qui est traduit par étoile, en réalité, il peut désigner toutes sortes de phénomènes célestes. Pas forcément une étoile comme nous on l'entend, comme nous on observe dans le ciel les soirs d'été. Ça, c'est la première chose. Donc ça laisse la porte ouverte à une supernova, ça laisse la porte ouverte à une conjonction d'étoiles, mais aussi à une comète. C'est pas forcément une étoile. Et le langage qui parle d'une étoile qui monte, parce que c'est ça qui semble être dit dans le texte, eh bien ce langage-là, il pourrait être approprié pour une comète. Puis la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, si vous regardez bien, ils voient l'étoile en Orient, mais à aucun moment ils vous disent que c'est l'étoile qui les guide jusqu'à Jérusalem. L'étoile leur donne un sens général, les dirige vers le pays et naturellement ils se dirigent vers la capitale. Notez qu'ils ne vont pas directement à Bethléem, vous voyez. Donc ils vont à Jérusalem et certainement ils ont reçu une indication peut-être préalable que ce Messie venait d'Israël. Donc ce n'est pas vraiment un GPS, l'étoile qui marche devant eux, qui les suivent. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe ici. Donc ils vont vers Jérusalem et quand ils sont à Jérusalem, là encore, ce n'est pas l'étoile qui les dirige. Ils ont l'indication des religieux, des grands prêtres et des scribes qui leur dit ça se passe à Bethléem. Et donc vous avez Hérode qui les envoie à Bethléem. Donc ce n'est pas vraiment un GPS, ce n'est pas une étoile qui se déplace et qui zigzague, c'est pas une libellule non plus, c'est pas une luciole qu'ils ont confondue avec une étoile, ils n'étaient pas complètement bêtes, ok? C'est juste qu'ils avaient un sens général qui leur indiquait où ça se passait, puis arrivés à Jérusalem, eh bien, ils vont avoir une indication de la part des scribes et des pharisiens. Et c'est seulement arrivé à Bethléem qu'ils voient de nouveau le même phénomène céleste qui désigne non pas la maison de Jésus. Vous savez, parfois on a le dessin, là, vous avez un dessin avec comme une étable, et puis vous avez un âne, un bœuf, deux, trois personnes, puis des gens qui sont des mages avec une couronne, comme s'ils étaient des rois, et comme de par hasard, une petite étoile qui est juste au-dessus du toit, tu vois. Le jour où tu auras une étoile juste au-dessus de ton toit, tu me feras signe. Je viendrai prendre une photo pour l'envoyer à la NASA. Mais ce n'est probablement pas ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est que l'étoile leur donnait une indication générale ou le fait qu'ils arrivent dans la ville et la manifestation de ce phénomène à nouveau leur indiquait tout simplement qu'ils étaient arrivés à bon port. C'est un miracle, mais comme souvent, Dieu se sert de phénomènes absolument naturels pour montrer son œuvre. Ok, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Et où est-ce que je veux en venir en vous racontant tout ça? Vous avez des gens qui sont les dernières personnes qu'on aurait pu attendre se prosterner devant Jésus, qui étaient dépositaires apparemment d'une tradition messianique lointaine, qui n'avaient rien à voir avec le judaïsme, et puis d'un seul coup, ils déboulent pour adorer Jésus, ils se prosternent devant lui. Ils viennent de loin, et pourtant, manifestement, par une conjonction de miracles, Dieu leur montre le chemin. Les gens les plus loin des extrémités de la terre parviennent à arriver de manière sécurisée jusqu'à ce Jésus qu'ils peuvent adorer. Et ceux qui sont les plus près sont incapables de le faire. Vous savez quoi? Je pense qu'il y a une bonne leçon pour nous. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Récemment, nous avons eu vent sur les réseaux sociaux, notamment dans la presse People également, de la conversion au christianisme d'un monsieur qui s'appelle Kanye West. Si vous ne connaissez pas Kanye West, c'est un rappeur très célèbre, très connu pour ses paroles très peu propice à la vertu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est souvent des paroles pour être modérées qui ne sont pas très encourageantes à une vie de piété, vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup tournées vers la sexualité, beaucoup tournées vers la violence, beaucoup tournées vers ce qu'on appelle le gangster rap, vous voyez, le rap de gangster, n'est-ce pas? Et ce Kanye West, qui est marié, vous savez, à Kim Kardashian, donc tout ça c'est un couple très people, eh bien s'est converti au christianisme. Et apparemment, il s'est converti au christianisme d'une manière assez radicale, dans un contexte qui n'est pas un contexte anodin. Il s'est converti dans une église avec un pasteur qui est associé à John MacArthur. Vous voyez, ce n'est pas tous les jours que des célébrités vont aller dans ce genre d'église-là. C'est quand même des églises assez conservatrices, généralement. Et il se serait converti là-bas et apparemment faisait des déclarations qui laissaient penser qu'on avait affaire à une conversion authentique. Mais ce qui m'a particulièrement frappé, chers amis, c'est de voir les réactions absolument contrasté qu'on avait notamment sur les réseaux sociaux avec des personnes, des gens même de notre entourage, qui doutaient que ça soit possible que quelqu'un comme Kanye West puisse venir à la foi. Comment est-ce possible qu'une personne comme lui, avec la vie de vice qu'il a vécue jusqu'ici et la somme d'argent qu'il a sur son compte en banque, de sorte qu'il n'a pas besoin de rêver la nuit de gagner 60 millions de dollars au loto, n'est-ce pas? Comment est-ce possible qu'une personne comme lui puisse venir à Christ? Et beaucoup d'entre nous font preuve d'incrédulité lorsque nous entendons des témoignages comme celui-ci, où il y a des personnes qui sont parmi les moins vertueuses de cette terre qui d'un seul coup viendraient à Christ. Essayez de comprendre que ces mages, c'était un peu le même style de personne pour les lecteurs de l'évangile de Matthieu, qui, je le rappelle, étaient probablement des juifs essentiellement. Ces mages étaient versés dans l'art occulte, dans l'astrologie. Vous vous rendez compte? Versés dans l'astrologie, ce que la Bible réprime, et les voilà guidés par une étoile. Exactement le moyen même par lequel ils pouvaient éventuellement pratiquer leurs arts occultes. C'est elle qui les conduit jusqu'à Jésus. Le message sous-jacent, le message central que l'on retrouve ici, c'est que tout type d'hommes peuvent venir à Christ. Personne n'est exclu de par sa condition. Sous des vues humaines, les mages sont les dernières personnes qu'on aurait pu imaginer voir Jésus. Il y a quelques années, je servais de la soupe dans un endroit qui s'appelle la Mission évangélique parmi les 100 logis au centre de Paris, quartier Belleville pour ceux qui connaissent. C'est vraiment l'un des endroits les plus populaires, les plus pauvres de Paris. Un homme qui était en état d'ébriété, qui avait beaucoup bu, est venu me voir. Il m'a dit « Votre message est merveilleux, monsieur, mais jamais Dieu ne pourrait accepter quelqu'un comme moi. » Et je lui ai dit « Vous savez, quelqu'un de pire que vous s'appelait Paul, Saul de Tarse. Il vivait au 1er siècle après Jésus-Christ. Il a persécuté les chrétiens. Il les a mis à mort. Il a tourné dans tout le bassin méditerranéen dans l'intention de persécuter l'Église, d'enfermer les chrétiens, de commettre des meurtres terribles. Et même si lui ne voulait pas venir à Jésus, c'est Jésus qui est venu jusqu'à lui. » Et il dira quelques années plus tard, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis moi le premier, dit Paul. Et je lui dis, vous voyez monsieur, c'est Paul le premier, vous n'êtes pas le pire, donc vous pouvez venir. Voilà la réalité, chers amis, tout type d'homme, de toutes conditions, peut venir à Christ. Sous des vues humaines, les mages sont les dernières personnes qu'on aurait imaginé voir se tourner vers Jésus. Ce sont les premières à accourir dans l'évangile de Matthieu. Troisième et dernière remarque sur ce texte merveilleux que nous lisons aujourd'hui. Il est possible de rencontrer Dieu en Jésus-Christ dès aujourd'hui. Il est possible de rencontrer Dieu en Jésus-Christ dès aujourd'hui. Regardez simplement comment ce texte contraste d'une manière très simple, très facile à comprendre, la foi de ces mages et l'incrédulité de ces juifs. Et en disant cela, je vous parle du judaïsme dont Jésus était dépositaire. Les représentants même de la religion du Christ sont incapables de croire en lui. Hérode s'était converti au judaïsme, les scribes et les grands prêtres en étaient les gardiens. À l'inverse, les mages étaient issus d'un peuple ennemi d'Israël. Ils étaient réputés ennemis de Dieu, idolâtres, spécialistes des arts occultes. Même l'étoile semble témoigner de cela, et c'est eux qui s'approchent de Jésus. Quelle différence entre les deux ? Est-ce l'appartenance à une religion ? Est-ce simplement la connaissance de quelques textes sacrés ? Ce qui fait la différence entre eux, chers amis, c'est la foi. Et la question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous aujourd'hui, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre condition, quelle que soit là où tu en es, ma question est la suivante. Et si toi, tu croyais ? Le message de Noël, c'est que Dieu a tellement aimé le genre humain qu'il s'est fait un simple homme. Il est devenu petit enfant pour toi. Il s'est humilié jusqu'à être dans la crèche de ces petits-enfants qui ne sont même pas capables de se changer eux-mêmes, de quelqu'un qui doit dépendre d'un autre pour manger. Il s'est abaissé pour prendre notre condition. Il a vécu sur cette terre en obéissant parfaitement aux exigences de Dieu, là où nous avons parfaitement défailli. Et il a marché de manière volontaire, de manière obéissante, jusqu'à son heure, parce que c'est pour ça qu'il était venu. Quelle était son heure ? Il est venu mourir sur une croix. Et on se souvient de Noël avec le petit enfant dans la crèche, mais on oublie que le but de la crèche, c'est d'aller jusqu'à la croix. Et il a vécu cette vie de manière à porter la condamnation que nous réservions tous, qui nous était réservée à tous. Et il l'a fait pour que nous puissions un jour rencontrer Dieu. Et vous savez quoi ? Le message de l'Évangile, c'est qu'en Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu au travers de la foi que nous plaçons en lui. Alors ma question, elle est pour vous tous. Et si toi, tu croyais en ce Jésus qui s'est manifesté à Noël il y a maintenant 2000 ans ? Et si toi, tu plaçais ta confiance en lui ? Voilà le message de l'Évangile et voici le message de la Bible. Je vous propose qu'on conclue maintenant par la prière et nous aurons encore quelques chants de Noël ensemble pour continuer notre culte. Prions ensemble. Seigneur, merci de ce que Tu nous rappelles que la manière de s'approcher de toi n'est pas avec des cerveaux remplis ou avec de la richesse ou avec de la puissance, mais tu aimes celui qui s'approche de toi par la foi. Merci Seigneur parce que tu nous as montré la voie par excellence, celle de ces mages qui sont prêts à renoncer à tout, prendre la route, suivre cette étoile que personne n'aurait suivie normalement pour venir jusqu'à Jérusalem et venir tout simplement adorer cet enfant qui venait de naître. Nous voulons te prier aujourd'hui pour que nous puissions être, nous aussi être dans un tel esprit d'adoration et compter sur toi, Seigneur. Compter sur toi non seulement pour nous rappeler cette histoire de Noël, mais aussi pour la rendre tangible pour nous, afin qu'elle matérialise ce salut que tu offres en venant t'offrir toi-même à la croix. Te prions, nous te glorifions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.